Globe de la presse, un nouveau rendez-vous sur Canal FM. Bonjour à toutes et à tous et merci de vous informer à travers cette émission. Michel Tomega est à la commande technique. Jérôme Akoutia s'occupe de la mise en ligne. Rappelons les noms de nos radios partenaires qui reprennent Globe de la presse à l'intérieur du pays. Radio Lumière à Nehor, Radio La Paix à Takpamé, Central FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassar, Sama FM à Niamtougou et Radio Courtoisie à Dapan. Émission accessible également sur les plateformes digitales de Canal FM, à savoir Facebook, YouTube et canalfm.com. Sans oublier nos partenaires Ibn Radio et Radio Le Bénin. Autour de la table ce jour, Abbas Issaka du journal Le Magnan Libéré. Bonjour Abbas.
Bonjour Fousseni, bonjour à tous les auteurs et autrices qui sont en train de suivre sur moi.
Sylvestre Kokoubeni du journal La Manchette. Bonjour Sylvestre.
Oui, bonjour Fousseni et bonjour à toutes et à tous.
Et puis Donatien Aweso, analyste politique. Bonjour Donatien.
Bonjour Fousseni, bonjour à la table, bonjour aux techniciens, bonjour à nos auditeurs qui sont câblés actuellement.
À la modération du débat, appelez-moi Fousseni Saïbou. Le débat démarre dans un instant. Mercredi, jour consacré donc au sujet sur la santé. Abel Ozi de Santé Éducation est là pour qu'on en parle. Abel, bonjour.
Bonjour Fousseni, bonjour à tous.
Le premier sujet concerne une épice. Le journal titre « Super épice contre la stérilité ». De quelle épice s'agit-il?
Voilà la question. De quelle épice s'agit-il? En voyant déjà l'image, on se pose la question... c'est quoi? C'est une épice qui a des vertus incroyables sur la santé féminine et masculine. C'est une épice qu'on a sur nos marchés, qu'on a sur nos étalages. Et ça s'appelle Echo en évé, ou en mina, Echo. Donc c'est le poivre long africain, ou bien le poivre de Céline. Donc cette épice a des vertus sur les maladies respiratoires, sur le foie, ça traite... Les parasitoses, les infections buccales, les problèmes digestifs. Mais on a mis un petit focus sur le côté stérilité. Pourquoi? Parce que on fait le constat selon lequel certaines femmes certains hommes ont des problèmes de conception. Donc liés à plusieurs causes. Ça peut être le stress chronique, la surcharge au travail, la pollution, la mauvaise hygiène ou alimentation. Donc... ce qui rend un peu les champs de conception difficiles. Donc, d'après plusieurs études scientifiquement prouvées, Echo peut aider, Echo peut contribuer et à donner ce pouvoir de conception à la femme ou bien au couple. Comment? Parce que les femmes qui ont des problèmes de cycle, Echo peut les aider.
D'accord.
Voilà. Donc, Echo peut être associé à d'autres épices comme les graines d'ail ou bien le fruit quatre côtés par exemple. Donc pour booster l'ovulation chez la femme et déclencher ou bien stimuler la spermatogénèse chez l'homme.
D'accord.
Voilà. Donc bref, c'est une épice qui améliore la sexualité dans le couple et favorise les chances de conception dans le couple. Mais ce qui est important, on a donné certaines recettes qu'on peut faire à la maison.
D'accord.
Qu'on peut faire à la maison, c'est-à-dire cette maison. Et il faut qu'on veille à la posologie.
D'accord, à découvrir dans le journal Santé Éducation. Et tout qu'on peut retrouver sur les marchés, hein, partout au Togo, n'est-ce pas?
Oui.
D'accord.
Bon, je vais juste ajouter que, en réalité, si on a des problèmes de conception, il faut surtout aller à l'hôpital pour un diagnostic précis. Voilà. Donc ça c'est important.
D'accord. Voilà. Il nous arrive parfois de ne pas avoir du tout envie de manger. Santé Éducation nous informe aujourd'hui sur les causes et les recettes pour traiter cette anomalie.
Abel. Oui, exactement. Ne pas avoir l'appétit ou bien ne pas prendre du plaisir à manger. Bon, je crois que tout le monde a déjà subi ça. Hein. Mais ce phénomène n'est pas anodin. Pourquoi? Parce que la perte d'appétit peut avoir plusieurs causes. Ça peut être des causes physiques, psychiques. Ça peut être dû à certaines maladies gastro-intestinales. Et même, quand on prend de l'âge, on peut observer que l'appétit diminue jusqu'à peut-être... on peut le perdre. Voilà. Donc, même avec l'âge, on peut voir que la perte d'appétit est observée. Donc, on voit une disparition totale de la sensation de faim. Voilà. Donc, si peut-être cette perte d'appétit est associée à certains symptômes, par exemple, comme les maux de tête, les diarrhées, la fatigue, ou bien la perte de poids, les nausées, attention, il faut aller à l'hôpital, il faut consulter un spécialiste.
D'accord. Voilà. À ne pas confondre aussi avec les pertes d'appétit pendant les périodes de grossesse,
voilà.
N'est-ce pas?
Voilà.
Alors, le diabète est un mal qui ronge beaucoup de personnes, et pour soulager ce mal, il faut adopter certains comportements alimentaires. Et c'est de ça Santé Éducation nous parle dans un article titré « Diabète, prendre le petit déjeuner avant 8 heures ».
Exactement, c'est un peu, je crois que c'est une étude internationale prouvée qui met l'accent sur ça. Vous savez, le contenu de l'assiette n'est pas toujours, n'est pas toujours le seul facteur protecteur du diabète. Il y a également l'heure où on mange. Donc, l'heure des repas également est à prendre en compte. Donc, selon l'étude internationale publiée, il est nécessaire de prendre son petit déjeuner avant 8 heures. Pourquoi? Parce que quand on dépasse 8 heures, peut-être on prend son petit déjeuner à 9 heures, ça peut augmenter le risque de développer le diabète de type 2 de 59%. Ça, c'est l'étude qui le dit.
D'accord.
Voilà. Donc, il faut éviter de sauter le petit déjeuner. Sinon, ça va affecter le contrôle du glucose et des lipides, ainsi que le niveau d'insuline. Voilà.
D'accord. Merci Abel Ozi. Parlons toujours de santé. Le Magnan Libéré évoque une réforme dans le système de santé. Le journal titre « Santé, le nombre d'institutions publiques de formation en santé au Togo » s'accroît à un coût de dizaines de milliards. Abba Sissaka.
Oui, bon, nous avons fait cet article-là pour montrer que depuis quelque temps, surtout dans les savanes, pour le programme d'urgence sanitaire, il y a eu la construction des hôpitaux, des unités de soins, et beaucoup de choses sont déroulées. Il y a des infrastructures sanitaires qui sont installées aussi, qui sont en train d'être rénovées également, un peu partout. Et encore, on a notre hôpital de référence qui a été inauguré. Et tout ça, là, c'est des centaines de milliards qui sont versés dedans pour que nous ayons au moins une bonne santé, pour que les populations togolaises puissent avoir une bonne santé dans ce Togo. Donc, s'il n'y a pas de bonnes infrastructures, il n'y a pas de matériel, et il n'y a pas de matériel de soins également, c'est qu'on n'est pas en bonne santé. Donc, le gouvernement, depuis quelque temps, est en train de faire des efforts pour avoir des infrastructures bien équipées et des infrastructures sanitaires aussi bien équipées pour que nous ayons une bonne santé.
D'accord. La santé avant tout?
La santé avant tout.
D'accord. Alors, nous sortons de ce sujet, de ce dossier sur la santé. À partir de la rentrée prochaine, les élèves du secondaire, public comme privé, devront respecter certaines normes en matière de tenue scolaire, normes arrêtées par le ministre en charge de l'éducation. La manchette revient sur le sujet et titre « L'ordre à l'école, voici le dressing code ». Alors, plus de mini-jupes et de pantalons sautés, le ministre Kokoko veille désormais au respect des mœurs, n'est-ce pas, Sylvestre Kokoubini?
Oui, je crois que c'est une décision à saluer. Et vous n'êtes pas sans savoir que si vous faites un tour, parfois dans les institutions, ou du moins dans les instituts, voilà, dans les instituts, vous verrez certains donc de nos sœurs porter donc des tenues qui ne sont pas dignes. Et disons-le ainsi, pour ne pas parler donc de mini-jupe, pour ne pas parler donc de micro-jupe, pour ne pas parler donc des tenues qui moulent le corps et qui fait plutôt exhibition. Donc, vous voyez, le ministre a pris cette décision bien avant. Il a également, je crois que quelques semaines avant, il a également pris une décision concernant les codes couleurs des bâtiments scolaires et tout. Donc, nous nous sommes dit, voilà, quoi, ça commence à venir. Il faut ôter de la tête donc, de nos frères et de sœurs, des pantalons qui descendent à peine donc, les genoux. Pour les garçons, bon, on dit que c'est la mode. Tu as bien trouvé le terme, les pantalons sautés. Je ne sais pas si c'est le terme approprié, mais eux-mêmes, ils parlent de schwang ou bon, ça. Bon,
on les appelait dans le temps pantalons moriba.
Pantalons moriba et tout. Donc, il faut véritablement corriger toutes ces choses-là. Et même au-delà donc, des écoles, je crois qu'une décision similaire a été prise concernant même l'université de Lomé. Parce que j'ai assisté à deux scènes à l'entrée de l'université où une étudiante qui est venue donc, au cours avec des pantalons déchirés et tout, mais elle a été arrêtée net à l'entrée nord, campus nord. Elle a été arrêtée par un élément donc, de la copule, de la police universitaire, parce que la tenue qu'elle portait justement pour venir au cours n'est pas en fait une tenue saine hein, d'une étudiante qui est venue donc, pour apprendre, voyez-vous. Donc, ce sont quand même des décisions à saluer. Et puis, c'est le suivi maintenant hein, qui me préoccupe beaucoup plus. Il faudrait quand même qu'on puisse aider hein, les responsables donc, des établissements et tout. Mais là où la décision est encore beaucoup plus importante, c'est qu'elle est élargie au privé. C'est vrai, la décision, il y a le public et le privé. Hein, c'est vrai que les privés aussi ont leur tenue et tout. Mais il faudrait au moins avoir un dressing code. Il y a au moins quelques caractéristiques à respecter, que tu sois au public ou au privé. Parce que généralement, les gens se disent que, oui, bon, au niveau du public, là, l'État est beaucoup plus regardant, mais au niveau du privé, il y a une certaine liberté. Oui, il y a une certaine liberté, mais cette fois-ci, pas dans les tenues. Hein? Pas les tenues où on vient à l'école comme si on va à un dîner ou comme si on va donc au marché et tout. Donc, il faudrait que quand tu es élève aujourd'hui, fais le sacrifice pour ce temps-là, et après tu auras toute la liberté. Si tu veux marcher nu et à Sigamé, ça c'est ton choix.
Ça aussi c'est puni. Hein?
Ah ouais, voilà. Encore que là, tu tombes donc dans le domaine pénal et là ça devient compliqué.
Voilà. Alors, les élèves ont adapté leur tenue scolaire à l'évolution de la mode, sauf que l'école n'est pas un lieu de kermesse et les enseignants doivent désormais veiller à ce que les apprenants comprennent bien cela. N'est-ce pas une grande responsabilité des enseignants face à des élèves de plus en plus indisciplinés, Donatien Wesson?
Vous l'avez bien dit, face à des élèves de plus en plus indisciplinés. Je suis dans le domaine, ça fait déjà plus d'une décennie, vous le savez très bien. Et ce à quoi on assiste, ce n'est pas de gaieté de cœur que nous faisons face à ça au quotidien. Donc le ministre n'a fait que sortir une décision qui est bienvenue. On ne va pas dire qu'il est venu dans un monde, il est venu très tard dans un monde trop vieux, non, mais c'est quand même un bon moment pour taper du poing sur la table pour que déjà à la rentrée, les établissements puissent se mettre à la danse de cette décision-là. Parce que ce à quoi nous assistons dans l'établissement, surtout dans les écoles privées, quand vous venez, vous arrivez les mercredis vers les midi ou bien 14h ou bien les vendredis, franchement dans certaines écoles c'est du laisser aller, parce que quand on renvoie dans une école là, il y a une autre là qui accepte tout, et là c'est la responsabilité qui incombe maintenant aux promoteurs et puis aux directeurs plus. Et le directeur qui va confier cette responsabilité aux surveillants. Et il faudrait quand même que l'éducation revienne. Parce que, je l'ai plusieurs fois dit, on a quitté le système de l'éducation pour le système de l'enseignement. Nous ne sommes plus dans le système de l'éducation. Il y avait avant ce qu'on appelle le ministère de l'éducation. Nous sommes maintenant dans quoi? Nous sommes dans le ministère des enseignements primaires, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'éducation est en train d'être bafouée un tout petit peu, où les parents rejette tout, bien laisse tout sur l'école. L'enseignant ne peut pas à lui seul faire face à une centaine, disons, voilà, une centaine, on va le dire ainsi, à une centaine d'apprenants, les parents qui laissent tout, les enfants même qui ne sont pas conscients, de plus en plus indisciplinés. Vous n'allez même pas faire une petite morale à un élève maintenant, c'est vous qu'on va prendre comme, je vais dire, cure-dent pour se curer les dents du peuple nasmé ainsi. Donc, le ministre n'a fait que suivre le pas de ses prédécesseurs. On se rappelle, avant, il y avait la liberté de faire de se tresser. Quand nous, on était au lycée, nos sœurs avaient des tresses sur la tête. À un moment donné, C'est à se coiffer, hein, fille comme garçon dans l'établissement officiel, c'est à se coiffer. Donc, ceci. Et une idée me vient à la tête. Peut-être je suis en train de réfléchir à haute voix. On pourrait quand même harmoniser toutes les tenues scolaires au Togo. Même le privé et l'officiel porteront les mêmes tenues, juste avec des macarons. C'est une idée qui me vient à la tête. On pourra l'harmoniser. Non, c'est juste une idée.
Ça ne permettra pas de mettre la différence entre
non, ce que je dis,
l'officiel et le privé.
Oui, les macarons. Mmh. C'est juste une idée. Je suis en train de réfléchir à haute voix.
Mmh, voilà, c'est une
Donc,
idée.
On peut quand même demander à ce que tous les élèves, que ce soit filles comme garçons, avec la propreté, le blanc, là, c'est un peu. Et il y aurait un macaron qui démontrerait peut-être le logo de l'établissement. Bon, c'est une idée. Si ça pourrait se faire, eux-mêmes, ils n'ont qu'à réfléchir dessus. Mais l'idée est bonne parce que nous aussi, nous envoyons des choses. Nous sommes des hommes, il y en a qui sont des femmes. Des fois, dans des classes, vous êtes déconcentrés parce qu'il y a une là qui a voulu ouvrir sa boutique, ou bien qui a ouvert sa boutique sciemment, ou bien par maladresse, vous suivez cela et puis bon, vous écrivez d'abord l'année avant le jour au tableau.
D'accord. Merci Abba Sisaka. Les enseignants seuls ne peuvent pas jouer ce rôle, n'est-ce pas, que les parents aussi ont aussi un rôle important à jouer.
Les parents jouent leur rôle. Parce que les parents ont l'obligation de jouer leur rôle. Avant que l'enfant ne sorte de la maison, le parent le surveille. Je vois souvent certains parents qui demandent à leurs enfants de retourner pour se changer parce que la manière dont sa fille est habillée, ce n'est pas commode. Et la fille retourne pour se changer. Mais dans la rue, elle, dans le sac, elle porte, elle met quelque chose. Et dans la rue, elle se cache derrière un mur et puis elle se change. Et elle continue. Maintenant, par rapport aux tenues scolaires, également là, quand elles arrivent à l'école, elles peuvent se mettre dedans, dans cette tenue, de façon correcte, qu'on a demandé. Puisque ça ne fait pas, il y a les surveillants qui sont déjà à l'entrée, qui voient ce qui se passe. Parce que moi, j'ai, dans une école de mes enfants, un enfant est venu en pantalon sauté, école privée, hein, en pantalon sauté, le surveillant l'a fait retourner. Il dit qu'il n'a qu'à aller se mettre, s'habiller très bien avant de revenir. Et je pense que c'est l'éducation que les gens donnent au niveau de l'école et au niveau de la maison qui va corriger l'enfant. Mais très souvent, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des enfants récalcitrants qui ne veulent rien entendre. Je ne sais pas pourquoi on ne veut pas écouter les parents à la maison et les enseignants à l'école. Parce que du moment où elles prennent souvent des gros sacs, elles mettent d'autres tenues dedans. Si elles sortent de l'école, elle va se cacher pour se changer dans une autre tenue avant d'arriver à la maison. Or, arriver à la maison, si les parents sont là, peut-être que les parents vont leur demander « Est-ce que c'est une école missionnaire que tu as faite ? Bien, tu n'as pas été à l'école. » Donc, tout ceci-là, il faut qu'on appelle à la conscience même de ces enfants-là, c'est les sensibiliser pour le fait que vous ne pouvez pas vous habiller comme vous le voulez. Donc, il faudrait que les parents et la société tout entière puisse sensibiliser ces élèves-là, ces enfants-là, qui croient que c'est la mode et qu'il faut suivre la mode comme ça, tout en s'exhibant. Donc, il faudrait que tout ceci-là, on puisse l'arrêter par les sensibilisations que nous pouvons leur donner.
D'accord. Sylvestre Béni, il faut peut-être élargir la mesure à d'autres activités scolaires, comme les activités culturelles, où les élèves viennent à l'école habillés à leur guise. Il faut peut-être élargir ça aussi.
Oui, il y a quand même des établissements qui le font. J'en connais. Je peux pas peut-être donner le nom pour faire une publicité gratuite, mais il y a quand même des établissements où, même lors des semaines culturelles, ils l'appellent semaine C maintenant, ce n'est pas n'importe quelle tenue qui entre au sein de l'établissement. Et donc, je crois qu'il y a beaucoup qui comprennent véritablement l'enjeu. Avant qu'ils ne soient enseignants, ils sont quand même des parents d'élèves. Et donc, en tant que parents d'élèves, il y a quand même un certain nombre de choses qu'il faut observer. Ta fille qui est en tenue, je ne sais pas, qui laisse, je ne vais pas reprendre le terme donc, de Harrison, mais je dirais qu'il ouvre la boutique ou qu'il n'arrive pas à discipliner ses jambes entre amis et tout parce que la jupe est à un niveau impassable et tout. Il y a quand même beaucoup. Il y a des surveillants, il y a les éléments donc, de sécurité qui sont au portail et tout. Je connais également un établissement privé, peut-être de renom, où le directeur vient, le directeur même en soi, vient se pointer au portail, de lundi donc à vendredi et observe tout. Si tu es mal coiffé, on te retourne. Si tu portes donc des tapettes qui sont sales, on te retourne. Si même l'uniforme n'est pas bien repassé, on te retourne. Vous voyez, ça c'est un institut, un établissement privé. Hein, si vous voulez, je peux peut-être donner le collège protestant de Lomé, au niveau donc d'Agbalépédo. Chaque lundi, de lundi à vendredi, le directeur en soi vient se porter, il est pointé au portail et il surveille tout. Vous voyez, donc si on commence donc à avoir ces réflexes-là, je crois qu'on aura donc et l'enseignement et l'éducation. C'est vrai, Abbas le disait tout à l'heure, il y a aussi certaines de ces filles-là qui quittent la maison très bien habillées, mais dans le sac, il y a quand même des habits de rechange. Et donc, la première boutique, peut-être sur le tronçon, donc elle gare, et puis bon, elle se métamorphose. Et là, le parent ne sait pas que c'est sa fille X qui vient. Même le papa peut la dépasser sans savoir que c'est elle. Puisque en quittant la maison, ce n'est pas la tenue qu'elle avait portée.
Effectivement.
Voyez-vous ? Et cela repose en fait le problème même d'éducation à la maison. Il faut éduquer les enfants. C'est là où, bon, peut-être que le débat va peut-être revenir. C'est là où je ne suis pas. Je ne partage pas donc les convictions de ceux qui disent que non, maintenant il ne faut plus utiliser le bâton à l'école et tout ça. Ça, c'est autre chose. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord.
Merci beaucoup.
Personnellement, parce que je ne vais pas dire que c'est le bâton qui nous a dressé, nous, mais c'est en fait.
Ça a contribué.
Ça a contribué. Les vendredis, on vous dit, dîner préparé et tout ça. Tu as fait 5 fautes, tu as 5 coups. Mais la prochaine semaine, tu feras tout pour ne plus avoir les 5 coups. Voyez-vous, maintenant on dit non, il faut laisser le bâton. Et même des artistes togolais qui ont chanté que non, et bon plein avion et tout ça. Moi, personnellement, et ça n'engage que moi, je ne partage pas ça. Parce que il faut utiliser donc et le bâton et la carotte pour mieux éduquer donc nos enfants. Vous avez vu, vous voyez un peu ce qui se passe aujourd'hui en France. Il y a où des mineurs qui sont dans la rue, qui ont donc incendié, qui ont bu le feu donc à une banque. On en voit donc le véhicule des sapeurs-pompiers. Ils prennent les sapeurs-pompiers pour cible, ils les ont tabassés, les sapeurs-pompiers ont replié, ils ont brûlé donc le véhicule des sapeurs-pompiers. Est-ce que c'est ce que vous voulez qu'on ait également dans nos sociétés africaines? Et quand le ministre de l'Intérieur dit que si on voit encore des mineurs dans la rue, c'est les parents, c'est aux parents qui vont payer le prix. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Au moment où nous voulons éduquer nos enfants, vous avez retiré nos autorités pour les confier à ces enfants-là. Mais aujourd'hui, vous êtes devant le fait accompli, à vous retourner vers les parents. Donc aujourd'hui, il faut avoir un peu donc une petite correction, une petite punition, mais pas dans la violence. Parce que la dernière fois, on a censuré un enseignant parce que il a fait donc dans la violence gratuite et délibérée. Ça, c'est autre chose. Pas dans la violence, mais de petites corrections, de petites punitions avec le bâton. Moi, je suis pour et je m'engage.
D'accord. Merci, Sylvestre. L'opération Feu Tricolore, lancée il y a quelques jours, poursuit son petit bonhomme de chemin. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'ici? Le Mania Libéré présente le bilan dans un article. Opération Feu Tricolore dans le Grand Lomé, semaine 1, près de 5000 verbalisations, titre le journal. Alors, Abbas Issaka, avec ce résultat, rien que dans le Grand Lomé, on peut dire que les forces de l'ordre ont mis le paquet.
Ce n'est pas Abbas Kabo.
J'ai cru qu'on allait continuer dans l'enseignement.
Oui, d'accord. Il y a ici avant de revenir sur
le sujet. Et puis, vous avez vu, l'opération a été lancée la semaine dernière pour permettre aux gens, pour dire aux gens, il faut que vous respectez le feu tricolore. Opération feu tricolore, il y en a des gens, je vais dire mal intentionné, qui se prête bien que le feu rouge est allumé, il vient vous dire, il faut filer entre vous, et il s'en va. Mais malgré l'opération qui a été lancée, et la police qu'on a déployée à tous les artères, malgré ça, il y a eu plus de 5000 verbalisations, il y a plus de 5000 interpellations. Pourquoi on doit avoir la peau dure avant de traverser cette chose? C'est pour notre sécurité. C'est pour nous-mêmes. quand on fait, il y a un feu rouge qui nous parle, il faut qu'on s'arrête parce que ce n'est pas pour le policier qui est là-bas qu'on doit s'arrêter. Ce n'est pas parce que le policier est là qu'on doit marquer un arrêt parce que le feu rouge est là. Même si le policier n'est pas là et que le feu rouge est allumé, ça vous dit que vous allez vous arrêter pour que l'autre passe de l'autre côté, celui qui a le feu vert. Mais dans tout ça, vous allez voir les gens continuer. Et dans ces interpellations, ceux qui ont été interpellés jusqu'à plus de 5000 comme ça, c'est les violations de ces feux rouges et d'autres qui n'ont pas de rétroviseurs sur leur moto. Je pense qu'il faudrait aussi amener les gens à avoir des rétroviseurs sur leur moto pour que tu vois ce qui se passe par derrière toi. Quand tu roules, tu jettes un coup dans le rétroviseur pour voir s'il y a quelque chose qui va se passer. Mais les gens croient que c'est de l'amusement, c'est pour orner la moto qu'on a mis, que le fabricant a mis les rétroviseurs. Or, c'est pour vous et pour la sécurité. Quand les gens achètent des motos, ils se permettent même d'enlever les rétroviseurs pour les déposer à la maison et de rouler comme ça sans rétroviseur. On ne sait pas c'est quel mot ils veulent inventer. Est-ce que celui-là qui a fabriqué cette moto et qui a mis les rétroviseurs, il ne sait pas l'importance de ces rétroviseurs avant de les placer? Et c'est vous qui allez acheter ça et vous venez vous les enlever, vous déposer. Il y a certains même qui se permettent d'enlever également des silencieuses de leur moto pour faire du bruit dans la rue. Or, entre-temps, le ministre de la Sécurité avait aussi sorti un communiqué pour interdire les bruits. C'est pour cela que j'ai dit que les décisions qu'on prenne, il faudrait qu'il y ait un suivi. Et que si on suit et qu'on voit ce qui se passe également, parce que pour les motos qui font du bruit dans la ville, il y en a actuellement, malgré le communiqué du ministre. Aujourd'hui, c'est l'opération Feu Tricolore. Il ne faut pas que après deux semaines de choses, les choses retombent, il n'y a pas de suivi et qu'on retombe dans le même travers où des gens se permettent de violer le feu rouge n'importe comment et de ne pas respecter des gens même quand ils traversent et puis veulent dépasser. Lorsque vous voulez même lui dire qu'il y a un feu rouge, il va vous insulter et il s'en va. Donc tout ça là, tous ces actes là, il faut que ça c'est l'incivisme. C'est de l'incivisme. En temps, on faisait des articles sur le civisme et ça a diminué. Aujourd'hui, si on pouvait les reprendre, faire du civisme à l'endroit des usagers de la route, respect du code de la route, respect des feux tricolores et autres là, je pense que c'est des gens de sensibilisation là qui font travailler la tête des enfants.
D'accord. Oui, Donatien Vesson.
Oui, je suis à 1000% d'accord avec Sylvestre sur l'ancien sujet. Il faut quand même que le bâton revienne dans l'enseignement, hein. Même si à la rentrée prochaine, on pourrait quand même le dire que bon, le châtiment corporel pourrait revenir, mais de manière mesurée. J'ai voulu débuter mon analyse sur la chute de ce que disait le doyen Abbas. C'est véritablement l'usager lui-même qui est des fois indiscipliné et puis incivique dans la rue, avant de voir si les feux tricolores sont défectueux, si la route ou bien les traçages sur les voies ne sont pas là ou pas. On ne comprend pas pourquoi des gens voient que c'est rouge, mais on klaxonne derrière vous, vous êtes obligé de céder le passage pour qu'il passe, et devant c'est un accident. Et ça aussi c'est le manque de l'éducation civique nationale, on va le dire. On va dire, il y a ça à l'école, etc. Mais les élèves, ils vont vous dire, c'est pour apprendre bûcher, avoir le point et partir. Pourquoi les enfants sont indisciplinés maintenant? Parce qu'ils n'appliquent pas le civisme là qu'on leur apprend. Le respect au primaire, on répète ça. Il faut que je respecte quand je vois un adulte, je salue. Vous allez voir les enfants maintenant qui vont vous dépasser. Des enfants qui risquent même de vous saluer avec la main, hein, vous faisant des signes de joie. C'est de l'incivisme. Et comme nous le savions avant, il y avait il y a des sensibilisations qui étaient dans la presse, il y avait un peu du financement qui allait à certains pour pouvoir toujours continuer par sensibiliser, mais bon, ça s'est amoindri et voilà là où nous en sommes actuellement. Donc il faut quand même qu'on relance ça, que sur les panneaux, que ça ne soit pas de la bière qu'on affiche pour qu'on nous dise qu'il y a réduction ici, il y a je sais pas quoi, promotion ici. Non, que ça soit plutôt des messages de civisme, que ce soit même humoristique,
Parce que j'en ai vu sur Facebook où on blaguait, c'est quoi, c'est au Burkina. On a dit ce sont les moutons qui violent les feux rouges. On a mis ça sur, au niveau des feux tricolores. On a mis là-bas. Ce sont les moutons qui violent. Et quand tu vas violer, tu sauras que tu te déclares mouton. Donc des choses comme cela, à la radio, déjà aux heures de grande écoute, à la télé, même quand on passe le journal, on met ça en bas. Vous allez voir, quand ça vous frappe aux yeux régulièrement, ça sera un peu, un tout petit peu ancré en vous. Donc, il faut que le ministère qui est en charge du civisme, je crois que c'est le ministre, le porte-parole, Christian Trimoy, qui a le portefeuille là, que ça reprenne encore et même que des sensibilisations avec des baffles dans les voitures puissent passer dans les quartiers. Parce que enseigner, c'est répéter. Et il faut quand même répéter aux gens pour que l'homme a la peau dure, des fois. C'est pas des fois. L'homme est de nature à avoir la peau dure. C'est quand vous dites assez dans ses oreilles qu'il en prend conscience. L'exemple même est là. Nos enfants ne savent pas qu'ils vont à l'école pour eux-mêmes. Ils vont premièrement pour les parents. Et après, c'est quand on prend l'âge et puis on arrive à ces endroits qu'on voit que, c'est pour moi-même, mon propre bien. Donc, il faut que le ministère qui est en charge le côté de civisme reprenne encore du boulot et que les sensibilisations reprennent.
D'accord. Sylvestre Kokoubeni.
Oui, j'étais en fait tricolore à un carrefour, un grand carrefour au niveau de GTA, où j'ai vu que tout le monde est respectueux, quoi. Tout le monde est sur la ligne et tu parles juste parce qu'il y a quelques policiers là-bas qui n'ont même pas 20 ans ou 21 ans. Vous voyez, c'est juste l'uniforme qui a fait qu'aujourd'hui tout le monde est discipliné. Est-ce qu'au-delà, donc de ces jeunes-là qui ont juste porté l'uniforme, est-ce que si eux ne sont pas là, est-ce que nous-mêmes on ne peut pas s'auto-discipliner et respecter donc les faits tricolores? Regardez déjà, en une semaine, le chiffre que le doyen Abbas nous a donné tout à l'heure. Parce qu'on a verbalisé tellement de personnes parce que, bien que l'information, les radios et tout ont donné l'information, il y a beaucoup qui s'en foutaient, qui continuaient donc à rouler avec des motos qui n'ont pas de rétroviseur. Et je l'ai dit ici la dernière fois, certains le font sciemment. C'est-à-dire qu'on achète la moto, on enlève les rétroviseurs pour avoir plus de place pour les bagages. Voyez-vous? Et donc, arrivé donc à un tournant, et comme s'il n'y a pas de client, on enlève la main pour demander aux autres qui sont derrière de ralentir, ou parfois ils sortent le pied. Vous voyez, tu es sur une moto et il suffit juste d'un mouvement.
Ça nécessite la concentration.
Vous voyez, mais donc tout cela aussi, il suffit qu'on mette encore des policiers pour nous inculquer ces valeurs-là. Bon, autant le faire si c'est ce qu'on veut, on le fera peut-être pour combien de temps? Une semaine, deux semaines, trois semaines? Je n'en sais rien, mais après, j'ai proposé une formule ici, et si le ministre Yakou me coûte, je veux quand même que cette formule soit appliquée. Quelqu'un qui viole les feux tricolores, au lieu de lui prendre 5 000, de lui prendre 2 000, de lui prendre 3 000, et après, de lui retourner la moto, pour garder la moto pendant au moins un mois. Garder la moto pendant, si c'est un véhicule, garder le véhicule pendant au moins deux semaines ou trois semaines. S'il prend, chaque matin, il se lève, il prend la moto des immédiats pour faire ses courses, ses affaires, à un mois, il va comptabiliser. Il saura que, juste parce que j'ai commis cette infraction-là, j'ai plus dépensé dans ce mois. Prochainement, quand il verra un petit policier qui n'aura même pas 18 ans, il va peut-être ralentir à deux, parfois à 200 mètres avant d'arriver au feu tricolore. Il faudrait qu'on le fasse parce que des gens roulent comme si, il y a un confrère qui le disait si bien, comme s'il y a, et c'est avec la photocopie de leur vie, qui sont en circulation, et donc quand la photocopie sera détériorée, on retournera à la maison pour prendre l'original. Voyez-vous, donc à un moment donné, il faut sévir pour que on puisse être respectueux ou respecter donc les codes donc de la route.
Ouais, c'est pour ajouter à ce que Sylvestre disait par rapport au délai de garde de moto. J'ai suivi l'agident chef toy de la DSR. Il dit que toutes les motos ou les engins qui ont été interpellés, ils vont faire une semaine dans l'enclos. Après une semaine, vous entamez la procédure de retrait avec le paiement de la contravention, 5 000. Donc, c'est pour dire que c'est tellement ce que nous avons dit la dernière fois par rapport, ça a été pris en compte.
Les fourrières et tout.
Les fourrières, une semaine en fourrière. Et après une semaine, vous allez entamer pour retirer votre moto. Et durant cette semaine, vous allez comprendre que lorsqu'on est privé de son engin, les dépenses que vous faites, ce n'est pas une petite affaire.
D'accord, merci. Le transport rime avec la contrebande. Le Magnan Libéré titre, l'OTR associe les transporteurs routiers à la lutte contre la contrebande. Alors, Bassiseka, malgré la volonté des autorités de mettre fin à la contrebande, le phénomène persiste et l'Office togolais des recettes reconnaît le rôle crucial des transporteurs routiers dans cette lutte.
Oui, c'est normal parce que c'est les transporteurs qui transportent des marchandises à travers le pays ou après les frontières. Donc, s'il y a de la contrebande, c'est par rapport à ces chauffeurs-là. Donc, il faudrait les sensibiliser sur le fait que la contrebande est une mauvaise chose. Si les contrebandiers ils sont dans leur logique, ils cherchent quelqu'un pour les amener là où ils veulent. Aujourd'hui, il y a des gens, quand vous les prenez, des véhicules qui sont arrêtés, c'est des marchandises de contrebande qui sont là-bas. Or, quand ça se fait, c'est en complicité avec les conducteurs, les camionneurs là. Donc, si on les sensibilise sur ce point, c'est que la contrebande va prendre de l'ampleur. Et c'est ce que l'OTR a tenu à faire, à sensibiliser les transporteurs à travers même leurs syndicats du transport, Unatrot et autres, qui ont trouvé cette formation très intéressante, qui disent que c'est une bonne chose. Donc, ils vont prendre conscience de ce qui se passe et ne pas aussi permettre à ces contrebandiers de les utiliser pour mener leurs activités.
D'accord. Donatien Wesso, ce phénomène de la contrebande continue de faire du mal à l'économie du pays, mais non seulement la santé des consommateurs.
Oui, surtout, vous voyez, ce qui n'est, on utilise le terme anglais smuggling là, ce qui n'est pas, voilà, ce qui n'est pas,
légal.
Dans la légalité, ça passe par des voies tortueuses et vous allez voir que souvent ce sont des choses qui ne sont pas de bonne qualité. Parce que quand c'est de bonne qualité, pourquoi se cacher? C'est celui qui fait le mal, qui aime l'obscurité. Donc, il faut quand même que ces transporteurs qu'on associe actuellement pour cette sensibilisation puissent jouer aussi leur partition et véritablement dénoncer, si bien sûr il y a à dénoncer, ou bien arrêter cette contrebande. Sinon, c'est d'abord, si c'est de la contrebande venant du côté médical pour les produits, c'est pour la santé. Peut-être c'est ta femme qui irait acheter ce produit de contrebande pour l'utiliser. Peut-être, voilà, ou bien c'est ton enfant, ou bien ta maman, ou bien ta grand-mère. Donc, indirectement, nous sommes tous affectés. Dieu seul sait ce que nous mettons dans nos estomacs et chaque jour qu'il fait. Donc, que les transporteurs puissent aussi véritablement jouer leur partition et que les dessous de table ne passent pas trop. Utilisons assez nos consciences. La conscience est en train de vouloir quitter ce monde. L'homme court tellement derrière le matériel, le gain facile, c'est-à-dire juste faire deux actes et puis avoir 200 000 que de vouloir faire réellement 5 actes ou bien 10 actes pour pouvoir avoir les 200 000. Donc on veut aller très vite, on veut du prêt-à-porter, c'est ce qui pousse à ce genre de choses. Mais aussi il faut voir ce que ceux qui sont reperchés font. Quand des petits font du smuggling, c'est que les reperchés font. Et eux aussi, je ne dis pas que c'est bon de faire, mais l'enfant souvent copie le grand. Donc que les grands puissent se corriger.
D'accord, merci. Je ne suis pas sûr qu'on pourra définitivement mettre fin à ce phénomène. Mais Sylvestre, c'est possible de freiner quand même.
Oui, c'est possible de freiner. Il faut juste une certaine volonté. Hein, il faut une certaine volonté donc, du côté donc, des dirigeants du peuple. Vous voyez, il y a certains qui disent que les petits voleurs sont entre donc les cages et les gros voleurs sont promus.
Ouais.
Ouais, c'est malheureusement c'est ce que nous voyons donc dans la société. Dit bon moi c'est juste quelques produits que j'ai fait venir donc du Ghana. Eux ils volent beaucoup donc d'argent du pays pour et comme vous voyez, ou transférer ailleurs et tout ça. Vous voyez, généralement quand ça on a donc ce genre de comparaison dans une société, cela n'éduque pas réellement la société. Mais tout compte fait, je crois qu'au niveau de l'OTR, il y a quand même du boulot qui se fait. Pas plus tard qu'il y a, je crois qu'il y a deux, trois semaines, où un jeune donc a fait venir des fers à béton donc du côté donc du Ghana pour ici. Bon, il a été poursuivi à son insu, et c'est devant son portail que les éléments donc, de la douane l'ont appris, et bon, l'ont appréhendé, et donc, le tricycle et les marchandises donc, ont été donc, convoyés à leur poste. Donc, il a payé, hein, il a payé pour l'infraction, tout ce qu'il devait payer selon donc, les dispositions prises dans ce côté. Donc, il a payé avant qu'on lui retourne. Et le tricycle et les marchandises. Je crois que si on continue à le faire ainsi, ça pourra véritablement donc sensibiliser. Mmh. Et donc il faut aussi communiquer pour ces gens donc de choses. C'est ce que je demande donc à l'OTM pour ces gens donc de
à
l'OTR. À l'OTR, voilà. OTR, OTM. Parfois on a du mal à faire la puisque nous sommes des partenaires. Voilà, puisque nous sommes des partenaires. Donc voilà, donc c'est ce que je demande donc à l'OTR. Il faut communiquer pour ces gens d'action, parce que ça pourra dissiper les autres donc à s'aventurer. Vous voyez qu'au niveau de la police, lorsqu'on prend un groupe de malfaiteurs, lorsqu'on prend des braqueurs et tout ça, aujourd'hui, hein, la police a un compte, même Twitter, la gendarmerie, et tout, ils sont aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ils communiquent abondamment, et je crois que ça va dissiper hein, ceux qui veulent tenter l'aventure, même si on sait qu'il y a des gens qui aiment donc retourner en prison mais il y a d'autres que cela va quand même dissuader. Mmh. Donc il faudrait quand même que l'auteur communique assez sur ce genre donc, d'éléments. Voilà.
D'accord. Merci. Nous passons rapidement à un autre sujet. Les dissensions au sein du parti CAR, Comité d'action pour le renouveau, n'ont toujours pas trouvé de dénouement. Contentieux au CAR, titre La Manchette, l'audience est renvoyée au 28 août. Alors, Sylvestre, vous avez toujours le micro. Difficile succession au sein du CAR. C'est la justice qui va finalement départager les deux camps en conflit.
Oui, nous, bon, au niveau de la Manche, nous l'avions prédit. Je crois que déjà dans notre parution donc, du 27 juin, nous avions dit que si cela continue ainsi, donc les deux parties risquent donc, de se retrouver devant donc, les tribunaux pour véritablement trancher la terre. Et donc, c'est ce qui est arrivé, hein, malheureusement, que ces deux parties-là sont retrouvées d'abord le 2 août, ensuite, ils y étaient même le lundi dernier, le 7 août, la partie, les requérants, c'est-à-dire le président de la transition, Nado Aoukou, et quatre autres personnes, dont Jean Kissi, qui sont donc les requérants, et qui ont donc... demander donc une assignation en annulation du congrès du 27, hein, puisque Yao Robert Daté a été élu après les soubresauts que nous avons connus donc, le 29 et 30 avril, qui véritablement a échoué, parce que c'est en ce moment-là qu'on devait même élire donc, les membres du bureau. Donc lui, il a été élu donc, le 27 mai avec un autre groupe, c'est-à-dire le deuxième groupe du CAR, si on peut le dire ainsi. Donc, au niveau du bureau de la transition, c'est eux qui ont porté l'affaire devant les tribunaux et demandent donc une annulation donc, du congrès du 27 mai. Ils ont, selon donc, nos informations, ils ont communiqué un certain nombre donc, de pièces hein, donc, au juge, et l'audience est renvoyée au 28 juin et, hein, pour la réponse donc, des requis, des requis qui sont Robert Daté et puis l'ancien vice-président du CAR au temps donc d'Agbeibo, M. Kolani. Et donc voilà, l'affaire étant donc pendante devant les tribunaux, je me garde donc d'aller dans les détails, mais d'accord, le constat c'est que il y a une difficile succession donc de Maître Agbeibo. Les frères rivaux, comme j'aime les définir aujourd'hui, les frères rivaux n'arrivent pas à s'entendre. Le bouchon est peut-être un peu loin aujourd'hui avec ce que nous voyons, mais le risque, hein, là je ne suis pas peut-être en train de prédire autre chose, mais le risque c'est que peut-être la fin c'est qu'on aura deux cas comme on l'avait vu au temps donc de Gilbert Atou et Justin Idi. On peut avoir deux cas, c'est-à-dire le cas comme on connaît le comité d'action pour le renouveau qui serait incarné par un groupe donc de ce que nous avons aujourd'hui. Et puis, bon, on peut avoir aussi un CARD, c'est-à-dire le Comité d'action pour le renouveau démocratique, puisqu'à l'époque, on avait Justin Idi et c'est NDPD, NDP et NDPD, quand il y a eu section. Et puis, il y a aussi l'épisode donc, de l'UFC avec l'ANC et beaucoup de partis qui sont sortis donc de l'UFC parce que les gens ne sont pas arrivés encore à se comprendre. Malheureusement, c'est cela. Bon, on verra la suite donc, de l'événement et puis on avisera.
On verra. D'accord. Abbas Issaka, s'il était encore en vie, Maître Agbeibo aurait voulu que le linge sale se lave en famille, n'est-ce pas?
Et s'il était en vie, ça
n'aurait pas. On n'aurait pas l'épisode là.
Il est en vie, il a mis la main sur ce genre de choses. Aujourd'hui, moi, je trouve dommage, très dommage qu'on en soit arrivé à là, que le cas en soit arrivé à ce niveau où il faut aller à la justice pour se régler. Le cas a des. Je pense, je ne sais pas s'ils sont encore vivants. Il y a des têtes pensantes là qui pouvaient les ramener et s'asseoir. Et puis ce qui m'a intrigué, la dernière fois, il y a les deux cars s'étaient retrouvés, un à la veille sur la tombe de Maître Agbeibo, et le lendemain, le second aussi allé sur la tombe de Maître Agbeibo. Alors, si on arrive aujourd'hui à la justice, et que la justice donne raison à un autre cas, on va nous dire que la justice a mal tranché, donc nous allons créer notre cas D. Donc c'est dommage qu'on en soit arrivé à là, parce que je ne sais pas ce que les gens cherchent. Est-ce que les gens veulent être responsables des partis politiques pour leurs intérêts, ou leader de partis politiques pour l'intérêt de la population ou des peuples? Aujourd'hui, la question se pose. Si c'est pour leurs intérêts, on comprend la division qui est au cas. Parce que les gens sont en train de chasser certainement. Les élections approchent. Il y a des gens qui chassent ce que le gouvernement donne aux partis politiques. C'est souvent peut-être ça que les gens chassent. Ils ne pensent même pas à l'intérêt de la population. Si c'est vous allez défendre l'intérêt de la population, pourquoi le cas qui était uni sous Maître Agbeibo et la méthode de Maître Agbeibo, paix à son âme, c'est le dialogue. Pourquoi les deux cas, les deux personnalités qui ont travaillé sous Maître Agbeibo ne peuvent pas s'asseoir et trouver une solution à l'interne? Et qu'on soit obligé d'aller se référer à la justice pour qu'on leur donne, qu'on le trouve, qu'on dise que bon, c'est toi qui as raison, toi tu n'as pas raison. Si on donne raison à un, on ne donne pas raison à un autre. Ce serait toujours problème.
Les frustrations vont continuer.
Et ces deux, même si on dit revenez travailler ensemble, ils ne vont pas. Tel que les choses sont passées, est-ce qu'ils vont se pardonner pour être ensemble, pour travailler? C'est la question.
Donatien Wessor, un nouveau président a été élu à la tête du CAR. Mais malgré cette élection, est-ce qu'avec ce qui se passe en ce moment, l'avenir du CAR n'est pas compromis?
Donc déjà, la réponse se trouve dans la question. L'avenir est très compromis. Et ça fait, pitié de voir que ce parti-là, qui avait eu à remporter les élections législatives, hein, si les joyeux peuvent me rappeler l'année
94,
avec l'UTD, je pense, voilà, oui. Ensemble, où ça devait changer. Mais on connaît tous la suite. Si aujourd'hui, ce parti, vous allez voir comment la descente a été en 2007, législative 2007. Vous avez vu comment la descente a été après, c'est 2013, et voilà là où nous en sommes. Si on a tous vu les vidéos, les invectives qui sont sorties de la bouche des gens, et puis bon, des gens ont failli en venir aux mains. Et aujourd'hui, il y a un aspect que j'aimerais d'abord pointer du doigt, c'est que le problème est allé devant la justice. Les gens ne se sont pas fait justice eux-mêmes. Et si la justice peut véritablement, la justice doit véritablement trancher ici en voyant ce que dit leur règlement intérieur. C'est pas à moi de leur apprendre leur travail. Et qu'en est-il de la population, de ceux-là qui les suivent ou bien ceux qui les soutiennent? Comme l'a dit le doyen Abbas, certains ne sont là que pour leur propre intérêt. Quand vous voyez ou fouillez dans certains partis politiques, certains qui m'entendent, ils sont là seulement que pour leur propre intérêt. Quand il s'agit de faire des choses pour l'intérêt commun, on te dit, tu sors d'où? Tu as commencé quand? On te fait de l'historique, on te fait de l'histoire et on te garde quelque part. Parce que des gens ont en tête, bien sûr, d'être bien perché,
bien positionnés pour que les élections à venir, ils puissent trouver peut-être leur part. Mais ceux-là qui vous suivent, et là, ça décourage un peu la jeunesse. La jeunesse qui est en train de vouloir prendre conscience politiquement, je vais le dire ainsi. La jeunesse qui est en train de vouloir prendre conscience politiquement, s'intéresser à la chose, la jeunesse là se démobilise à cause des agissements des aînés. Mais bon, faut pas que la jeunesse démobilise. Il y a de ces jeunes-là dont nous faisons partie. Nous sommes en train d'arriver. On fera ce qu'on peut.
D'accord. Merci, Donatien. Nous allons poursuivre avec un article dans Mania Libéré de ce jour. Enseignants supérieurs, examens nationaux, une remise en cause des programmes de formation des EPS s'interroge le journal. Abbas Issaka.
Oui, nous avons fait cet article parce que là, il y a quelques jours, le ministre de l'enseignement supérieur a fait une sortie pour parler des examens nationaux désormais. Et les réformes se poursuivent. On voit que le gouvernement est en train de faire de bonnes choses. Mais il y a des graissements dedans par rapport à ces examens nationaux parce qu'il y a au niveau des établissements publics d'enseignement supérieur, privés d'enseignement supérieur, il y a un pas de stigmatisation puisque la floraison de ces écoles, de ces établissements privés d'enseignement supérieur sont venus pour au moins permettre au décongestionnement des universités publiques. Et ils disent que le ministère de l'enseignement supérieur a toujours été un conseiller, a joué le rôle de conseil pour permettre le développement de ces EPS. Mais aujourd'hui, s'il faut changer, parce que chacun a son curriculum, et que quand vous prenez les examens, le LMD, qui est actuellement là, qu'il faut éliminer les unités ou bien les UE, unités et puis les d'enseignement. C'est par rapport à ça qu'on évalue les étudiants. Aujourd'hui, on dit qu'il faut faire les examens nationaux. Il y a les étudiants étrangers, surtout dans les écoles privées, dans les universités privées, il y a beaucoup d'étrangers qui sont venus pour ça. Donc, on dit qu'est-ce que ça ne pourrait pas renvoyer les étudiants étrangers vers d'autres pays. Et le problème, c'est que le LMD également est remis en cause. La formation du LMD est remise en cause par rapport au processus qui est en train d'exister. Donc, pour eux, il faudrait faire de telle sorte qu'on puisse revenir. Puisqu'on a dit que c'est l'année prochaine que ça va démarrer. Or, les gens sont déjà habitués au système LMD, sur lequel les examens, les crédits sont achetés. Il faut acheter tel nombre de crédits pour éliminer. Même si vous arrivez à un niveau, vous dépassez, vous devez revenir par derrière, éliminer le crédit que vous n'avez pas pu terminer. Donc aujourd'hui, ça remet en cause tout ça. On nous a posé la question de savoir si la nouvelle réforme des examens nationaux ne vont plus remettre en cause parce qu'il appartient aux autorités de l'université de bien venir nous expliquer. Puisque ça fait des grincements dedans et ça pose des questions également et des inquiétudes.
D'accord. Merci Abbas Issaka. La manchette évoque l'histoire dans sa parution de ce jour avec ce titre Discours historique à l'OUA 24 mai 1963. Actualité politique en Afrique, en avance sur son temps, Kwame Nkrumah avait tout prédit. Alors, oui. Sylvestre.
Oui, oui. En fait, nous sommes en train donc de fouiller et nous sommes tombés sur un discours, le premier. Le discours donc de Kwame Nkrumah, l'ancien président, homme d'État indépendantiste donc du Ghana, qui a fait un discours à la première réunion donc de l'UOA. L'ancêtre donc de l'Union africaine, avant c'est l'Organisation pour l'Unité africaine, je crois, OUA, où Eden Kodjo était donc le secrétaire général. Il a fait un discours qui aujourd'hui, lorsque vous prenez le temps donc de parcourir ce discours, c'est vrai que c'est un peu long, mais ça reflète l'actualité africaine, c'est-à-dire ce que nous vivons aujourd'hui au Niger, ce que nous vivons aujourd'hui au Mali, ce que nous vivons au Sénégal et tout ça, je crois que l'homme est un visionnaire. C'est-à-dire que c'est comme si c'est une prophétie qui aujourd'hui se réalise. Et déjà, les pères donc de l'indépendance avaient déjà une vision, étaient donc dans une vision d'anticipation donc de ces phénomènes-là. Mais aujourd'hui, les successeurs n'ont pas su capitaliser sur tout ce qu'ils ont dit à l'époque. Et aujourd'hui, nous sommes presque devant le fait accompli. Il y a un paragraphe que je vais peut-être vous lire. Quand il dit, par exemple, qu'il est vrai qu'en ce moment, nous rejetons aussi vite que nous le pouvons le jour du colonialisme. Mais parallèlement à cet succès, dans cette direction, l'impérialisme déploie un effort intensif pour continuer l'exploitation de nos ressources en suscitant des dissensions entre nous. C'est-à-dire que vous voyez, aujourd'hui, ça répète un peu ce que se voit au Niger, où les gens continuent donc à piller les ressources d'un pays, et lorsque on leur demande de faire bloc, de faire union, pour faire barrage à cela, ils n'arrivent pas. Donc il y a ces dissensions-là, pour ne pas dire ces distensions qui sont encore en cerveau aujourd'hui. Vous prenez, il y a d'autres paragraphes que, en fait, c'est lorsque vous voyez que les gens étaient en avance sur leur temps. Mais sauf que les successeurs donc de Patrice Lumumba, les successeurs donc de Sylvanus Olympio, les successeurs donc de qui il y en a tellement, n'ont pas su continuer donc dans cette ligne, parce que pour eux c'est le si vous voulez, bon, peut-être qu'on peut le dire, c'est le français qui vient dire toi viens, reste donc ici. Et ils se comportent comme des préfets. C'est-à-dire, c'est la France, mais toi, reste là comme si tu es préfet. Et là, on dit. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'on revient, on assiste encore à des phénomènes de coup d'État, parce que certains ne veulent plus entrer donc, dans cette logique. Il y a un paragraphe qui est long, où il parle donc de la révolte donc, des populations, contre donc, le fait qu'on veut les confiner dans une certaine directive, dans une pensée unique, dans une pensée donc, colonialiste, ou c'est ce que nous disons que vous devez faire parce que nous avons des intérêts chez vous. C'est le Niger en dit long, le Mali en dit long. Voyez-vous donc, il faudrait à un moment donné que nous puissions retourner dans l'histoire, voir ce que la vision donc de ces pères indépendantistes de ce qu'ils veulent véritablement faire donc de cette Afrique là, pour que on en arrive donc véritablement. Si on arrive à faire le quart de ce qu'ils avaient prévu, je crois que notre continent ne sera pas encore dans cet état où des princes et des princesses que nous sommes assis donc sur une mine d'or. Nous devons encore prendre des embarcations de fortune. On va prendre donc la Méditerranée pour aller donc trépasser dans le ventre donc de la mer. C'est quand même triste, mais bon, c'est la réalité africaine. Et c'est cela l'Afrique, malheureusement.
D'accord. Merci Sylvestre.
Oui, c'est juste pour aller dans la même lignée que Sylvestre, pour dire que c'est les choses ont été depuis le temps colonial. On est dans le direct rule. Vous savez très bien, quand vous êtes dans le direct rule, c'est le français, je vais dire, qui est là et qui vous dit ses lois et qui met quelqu'un qui veille sur ses intérêts. Mais dans le indirect rule, vous voyez très bien un peu l'écart de développement, bien l'écart de manière de penser entre les pays anglophones, bien anglo-saxons, et les pays francophones. Et ça agit aussi sur nos manières d'agir, de réfléchir. Donc, il faut quand même que ces États-là commencent par s'émanciper, parce qu'il y a déjà un ou bien des chevaux qui sont en train de galoper pour réveiller ceux qui dorment. Donc, ces chevaux-là, je vais citer le Mali, la Guinée, le Burkina, le Niger. Donc, que nous puissions voir ce qu'ils sont en train de faire. Je ne dis pas d'aller faire le coup d'État comme ils sont en train de faire, mais leur manière de vouloir s'émanciper du joug colonial, il faut quand même qu'on le fasse, qu'on coupe le lien avec ce cordon ombilical du direct rule, qu'on est là à chaque fois. Il faut suivre ce que le blanc, qui est le grand maître, le connaisseur, qui dicte, et c'est ça qu'on doit suivre. Donc, coupons le lien avec ça.
D'accord.
Ça rappelle l'ancien président donc guinéen, Alpha Condé, qui disait ouvertement: coupons donc le lien ombilical avec la France et nous allons avancer.
D'accord. Abbas Issaka, malheureusement, face à toutes ces questions cruciales qui concernent l'Afrique, les Africains restent totalement divisés.
Oui, ils commencent par être unis. Vous avez vu que aujourd'hui, quand il y a un coup d'État au Niger, parce que quand les gens veulent dire que nous ne voulons plus la France, tout ça là, les trois autres pays qui ont fait coup d'État pour demander à la France de quitter sont solidaires.
Oui, voilà.
Ce qui veut dire que ça commence par venir.
D'accord.
Donc il faut couper le cordon ombilical et nous-mêmes, nous allons être nos propres maîtres. Nos propres on ne peut même plus dire qu'on va solliciter un autre maître quelque part. Il faut oublier l'histoire de nous allons quitter ce maître et aller sous ce maître. Oui. Nous-mêmes, il faut qu'on s'assume parce qu'on a des ressources naturelles et que si quelqu'un veut être avec l'Afrique, que le traitement soit égal, gagnant-gagnant. S'il n'y a pas un traitement égal, gagnant-gagnant, ce n'est pas la peine d'être avec ce maître-là. On ne peut plus toujours être sous la coupole de quelqu'un.
D'accord, merci. Nous marquons une pause et on revient. 93.5. Nous sommes de retour pour terminer en toute beauté cette émission. Nous allons ouvrir la ligne aux auditeurs. Un auditeur déjà en ligne. Allô?
Oui, allô?
Oui, bonjour.
Ah, je salue vraiment le plateau. Hein.
Merci beaucoup.
Et Dieu tout puissant de nous.
Merci.
Bon, moi, je voudrais m'intéresser au problème quand même. Bon, je lance un appel au chef de l'État, s'il vous plaît. Je lui demande pardon. Et plus de l'autorité du côté. Parce que vous venez de parler de comment maintenant on ne passe pas la douane. Bon, on fait des taux, là. Vous voyez, pourquoi? Parce que quand la douane dans une république, quand la douane est trop chère, il y a toujours ce phénomène. Je ne sais pas, vous tous qui êtes au plateau, vous allez au marché. Allez au marché, vous allez voir comment les trucs sont très chers. L'autre fois, j'ai payé un véhicule à 8 millions, je paye 3 millions, comme la douane. Vous voyez un véhicule qui est déjà sorti hors d'argile, qu'on a déjà utilisé pendant 12 ans. Vous voyez, alors que quand vous prenez le pays de Sahara, le Niger, le Mali, le Burkina, la douane est moins chère. Je supplie vraiment, c'est-à-dire à notre chef de l'État, il est le papa des Togolais, de diminuer un peu la douane pour que les Togolais puissent manger. Je vous remercie beaucoup.
D'accord. Merci. Bonne journée à vous. Allô? Pas encore. Nous rappelons rapidement les lignes 22 21 33 74 22 20 19 68 78 87 78 37. Toujours pas d'auditeur. Nous espérons encore, je reprends encore une fois, 22 21 33 74 22 20 19 68 98 87 78 37. Toujours RAS. Alors, nous allons profiter, répondre rapidement à l'auditeur qui a appelé sur cette question.
En priorité, allô.
Voilà, donc, il y a un auditeur en ligne, allô.
Oui, c'est toujours l'évangéliste Senghor, comme les gens ne viennent pas. Vous voyez, j'ai l'habitude de dire que quand le peuple se met debout, l'impérialisme disparaît. Aujourd'hui, c'est nous, la population, qui est élisée, ou bien, bon, excusez-moi pour le français, c'est-à-dire qui laisse les chefs d'État au pouvoir. Mais je ne comprends pas qu'aujourd'hui, les chefs d'État africains, quand quelqu'un qui vient directement, il se rallie derrière la France. Moi, je ne sais pas si la France leur donne de l'argent ou comment que vraiment. Aujourd'hui, avec le président nigérien, le vieux, aujourd'hui, il a raté sa mission, manque de sagesse. Bon, il est temps que vraiment qu'on pose la population, qu'on s'approche de la population. Supposons ce qui s'est passé avec Mazoum. Mais quand ils se sont réunis à Abuja, il faut que vraiment qu'ils s'interrogent la population nigérienne pour voir. Mais pourquoi aujourd'hui, c'est pas une minorité, voilà que toute la population mali et nigérienne est sur les poutistes. Et c'est pas une partie de l'armée aussi qui a fait le coup d'État. Ça ne marchera jamais. Donc il faut que, je crois qu'un de vos collègues a dit ça, l'Afrique d'aujourd'hui est différente de l'Afrique de 1940. Nos chefs d'État pensent que ce qui s'est passé au Niger peut passer en Afrique. Personne n'est pas content des coups d'État constitutionnels. Non, moi, Senghor, je suis contre ça. Mais il faut qu'ils pensent à la population. D'accord. Je vous remercie
beaucoup. D'accord, merci beaucoup, monsieur le pasteur. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Ok, tout d'abord je salue le plateau. À propos de l'affaire du CAR, ses amis d'hier deviennent un ennemi d'aujourd'hui, c'est pas bon. Ils n'ont qu'à essayer de s'entendre et continuer le travail que Maître Agbogbo les a confié. Merci, bonne journée.
Merci, Papa Sojine. Allô? Allô?
Allô, oui, bonjour mon directeur.
Bonjour papa.
Bonjour monsieur Isaka. Allô.
Allô.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
S'il vous plaît, est-ce qu'il y a un célèbre professeur de l'île, comment il s'appelle là, de ceux qui est avec vous?
Non,
c'est pas le professeur. Ah, la voix lui ressemble. Merci beaucoup, monsieur Béni, ce que vous avez dit.
Oui.
Il n'y a aucune éducation sans sanction.
Oui.
Mais votre collaborateur, collègue, monsieur Sange, dit que quand on montait le drapeau et il a fait un jeu, on l'a fait jusqu'à présent, il s'en rappelle.
Oui.
Vous venez de quelqu'un a dit que aujourd'hui, pour nous là, c'est l'égoïsme, c'est moi. Parce que le mal soit celui du voisin. Tout ce que nous avons, c'est ça. C'est ça qui fait que les choses n'évoluent pas. Il faut que les gens réfléchissent. Monsieur Kokoroko, les tenues, vous avez dit, pas parce que la fille est mal habillée que vous devez sauter sur elle. Le maître est pour l'élève plus que son papa. Merci beaucoup.
D'accord, merci papa. Allô? Allô? Oui, bonjour. Allô. Bonjour.
Bonjour.
Madame ici, comment allez-vous? On vous écoute.
Une chose à passe. Bon, mon frère a appelé que l'Afrique d'hier n'est pas pareille que celle d'aujourd'hui. Je lui dis que c'est bien pareil. Avec les révolutionnaires qui font des coups d'État, et puis qu'on est si arriéré, quoi. Aucun pays géré par les poutistes n'a été développé. On n'a rien. Avec ces poutistes qui dirigent nos États depuis 60 ans, 50 ans. Et puis, les rôles l'ont fait Sankara, Modibo, Keïta du Mali, Kérékou, et même Nkrumah, tous ces gens-là, ils l'ont fait. Hein. Ça n'a pas été. Bon, là, c'est qui sont des marxistes. Marxistes, c'est les Russes, toujours. Donc, voilà quoi.
D'accord.
Et puis, qu'on arrête ça pour qu'on avance. Qu'on arrête tous ces désordres-là.
D'accord.
Qu'on avance.
Merci.
Vous avez parlé de.
Oui.
OTR. Je ne sais pas si l'OTR existe dans le désert. Hein. Bon, pas le Mali, c'est-à-dire la Mauritanie, dans le Maghreb, par exemple. Je ne sais pas, il faut que... Je ne sais pas, est-ce qu'on ne peut pas supprimer ce truc-là qui nous a prouvé? On peut la supprimer. L'OTR peut être supprimé. Hein. Le Togo est l'ordre de l'humanité. Et puis, je veux dire aussi, quand ça vient là, les petites viennent là, ils mettent les partis politiques en veilleuse. Ils font les constitutions pour eux. On a qu'à arrêter ça. On n'a pas besoin de ces trucs-là. On veut avancer, quoi.
D'accord.
Merci.
Merci beaucoup. Allô? Allô? Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Pardon, je reviens.
Ah, d'accord.
La CEDEAO, là, elle n'a qu'à aller lutter contre les terroristes d'abord. Les gens, s'il y a coup d'État, c'est parce que les gens ne gouvernent pas bien. Les djihadistes. Au lieu d'aller s'occuper, il est venu, il ne connaît rien de ça, on lui confie la responsabilité. Pourquoi? On n'a qu'à combattre les... Ils n'ont qu'à combattre les terroristes d'abord. Merci.
D'accord. Merci, papa.
Moi aussi, alors, je reviens comme tout le monde.
Alors oui, donc, on vous
écoute. Oui, je reviens comme tout le monde, puisque les gens sont ruinés en téléphone aussi. Hein. Ça coûte très cher. Et je veux dire aussi que quand ces petits viennent là, c'est les mêmes qui maintiennent les dictateurs. C'est les mêmes qui prennent dans les palais, les tuent. Et puis 10 ans après, 15 ans après, bon, à part le jeune là qui n'a pas trop duré, c'est les mêmes qui carnavent la population. Il faut le dire aussi, c'est les mêmes gens là qui nous refusent l'alternance, qui nous maintiennent les présidents. Hein. C'est les mêmes qui font les coups d'État pour venir aux affaires, jouer, bien jouer comme leur patron. Merci.
D'accord, merci à vous. 22, 21, 33, 74, 22, 20, 19, 68, 98, 87, 78, 37. Allô? Pas encore d'auditeurs. Nous allons peut-être profiter et réagir sur les interventions des auditeurs. Sylvestre.
Oui.
Oui, allô?
Un instant. Allô?
Oui, allô?
Oui, on vous écoute.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Je voudrais participer à l'émission.
Oui, vous êtes en direct.
Je salue d'abord le plateau. Moi, je voudrais intervenir sur les tennis scolaires.
D'accord.
Pour féliciter notre ministre Excellence pour tout ce qu'il fait dans le domaine scolaire. Ce que moi, je voudrais, si on pouvait avoir un deuxième Kokoroko au ministère de la Santé, ce serait très bien, parce que là-bas, c'est de bouillabaisse.
Donc, je ne voudrais pas trop monopoliser la parole. Ceux qui ont des oreilles.
D'accord. Merci à vous.
Au ministère de la Santé.
Allô? Pas d'auditeur. Alors, Sylvestre.
Non, écoutez. Non, c'est l'auditeur qui me fait rire. Parce que je souhaitais avoir un deuxième cocoroco au ministère de la Santé. Bon, je crois que bon. C'est son commentaire.
Oui, allô, vous allez réagir tout à l'heure. Allô?
Oui, moi, je voulais parler à propos de la décision que M. Cocoroco a prise.
Allez-y.
Vraiment, c'est une très bonne décision. Il faudrait qu'on puisse veiller à la suite de cette décision. C'est tout ce que je veux.
D'accord. Merci à vous. C'est le dernier auditeur de ce jour. Sylvestre, vous avez la parole.
Oui, en fait, je voulais revenir sur la déclaration de Papa Sibiti. Il demandait donc à la CDA d'aller plutôt s'occuper donc des terroristes. Je crois que lorsque vous lisez bien le communiqué sorti par le colonel Mamadi Djoubouya, le président de la transition de la Guinée-Conakry, c'est exactement ce qu'il disait vers la fin donc, de ce courrier en demandant à la CDA de s'occuper beaucoup plus donc, des Ouest-Africains, hein, des Africains qui rencontrent également aujourd'hui des problèmes en Tunisie, des jeunes qui prennent donc la mer pour aller trépasser dans le fond marin et tout, au lieu donc de s'en prendre à des gens qui ont pris leurs responsabilités. En réalité, ce qui s'est passé au Niger, personne ne peut soutenir donc un coup d'État, personne. Personne. Mais c'est vrai qu'eux aussi donnent donc leur raison. Mais au même moment, nous ne pouvons en aucun cas soutenir en ce que la CDAO déploie des militaires pour intervention militaire au Niger. C'est impensable, c'est inadmissible. Parce que, sous nos yeux, les Africains, la CDAO, l'Union africaine, ils se sont tués quand l'OTAN et ses alliés sont rentrés donc, à Libye. Aujourd'hui, la Libye est pratiquement devenue donc, une ruine. Et c'est de la Libye qu'est parti donc, le phénomène terroriste que nous voyons aujourd'hui, qui a déstabilisé tout le Sahel. Il y a les forces Takuba, les forces Barkhane qui sont restées là pendant une dizaine d'années, mais ils ne sont pas arrivés donc à circoncire le mal. Voyez-vous? Et maintenant, on veut ouvrir encore un autre front au Niger. Il y a des gens qui disaient, on sait quand ça va commencer, mais on ne sait pas quand ça va finir. Donc, est-ce que nous voulons avoir donc la Libye, c'est-à-dire Libye bis donc au Niger, est-ce que c'est ce que nous voulons avoir, où ce pays-là sera totalement la ruine et là ce sera véritablement un foyer donc de terrorisme du djihadisme. Donc c'est pourquoi moi je dis la CDAO doit prendre garde. Tinubu, nous avons titré ce matin
l'inquisition de Tinubu, garde.
Justement parce que le Bola Tinubu aujourd'hui il se comporte comme ce président ukrainien là, Zelensky, qui dit oui, nous allons arriver, mais pendant ce temps, le pays est devenu totalement une ruine. Mais il dit oui, donnez-nous les armes, on va aller, on va intervenir, on va faire ci. Mais c'est la population qui en partie, en fait. Voyez-vous donc qu'il faudrait qu'on arrête. Aujourd'hui, vous prenez donc le Niger, c'est pratiquement 4,3 millions donc, de personnes qui vivent en dessous donc de. C'est avec moins donc d'un dollar par jour. Et c'est ce pays là où ils ont l'uranium, mais ils n'ont pas de l'électricité dans certaines contrées. Or, les gars ont tellement donc de ressources, mais ils vivent dans la pauvreté, dans une pauvreté indicible. Aujourd'hui, ce pays-là qui ne disait presque rien à personne est devenu donc la convoitise. Vous écoutez donc nos confrères occidentaux qui disent non, on doit intervenir militairement donc au Niger parce que nous risquons donc de manquer de matières premières dans nos pays. Vous voyez un peu le raisonnement? Et des Africains qui soutiennent qu'on aille donc bombarder le Niger. Ben c'est impensable. À un moment donné, il faudrait quand même qu'on arrive donc à se sortir donc de ce discours de fat en guerre là et penser plutôt au développement de l'Afrique.
D'accord. Abbas Issaka.
Oui, je pense que par rapport à ce qui se passe au Niger, il ne faut pas opter pour la force militaire. Et la position du Togo est claire là-dessus. C'est le dialogue, la diplomatie qui règle tout. Nous avons un chef d'État qui est bien dans ces histoires de diplomatie. Il faudrait qu'on opte pour ça parce que on ne peut pas mobiliser toute une armée de la CDAO pour dire qu'on va aller déloger des putschistes quelque part. Alors qu'au même moment, vous avez la nouvelle de l'information avant-hier, des terroristes ont égorgé des Burkinabés et des Togolais qui sont sortis, qui ont quitté le marché Saint-Cassé pour aller vers Ouaga. Est-ce que on ne pouvait pas mobiliser ces troupes-là pour mettre hors d'état de nuire ces terroristes-là? Et quand il s'agit de on va mobiliser pour aller déloger des
policiers. De sauver un membre du syndicat.
Ce n'est pas normal parce qu'il faudrait que la CEDEAO soit une CEDEAO des peuples, qu'une CEDEAO des chefs d'État seulement, des intérêts des chefs d'État. Donc il faut changer tout. Et de deux, bon, par rapport à l'opération Feu Tricolore qu'on a lancée, je voudrais aussi interpeller les maires, les communes, où les feux tricolores là ne marchent pas. Il faudrait qu'on profite de cette opération Feu Tricolore là pour que on puisse remettre en œuvre et permettre à ces feux rouges là de feux tricolores là de travailler. Sinon,
les usagers vont trouver
des alibis que il y a feu rouge, il n'y a pas feu rouge. Nous allons continuer par faire des choses. Donc il faudrait que les maires des communes concernées, tous les maires là, de centralisation, fait que l'État est un peu il s'est un peu les dégager. Donc les maires là doivent faire de telle sorte qu'on ait des feux tricolores qui ne fonctionnent pas, que ça fonctionne normalement.
D'accord. Donation aussi.
Oui, le joint marche toujours sur ma langue. J'ai voulu dire que chaque crise ou bien chaque situation porte en elle les germes de nouveaux paradigmes. Et là, quand on a lancé cette opération feux tricolores, c'est qu'il faut quand même que les endroits où se trouvent des feux tricolores défaillants, il y avait ici le joint Isidore qui l'avait soulevé la dernière fois, il faut quand même qu'on les répare. Et j'aimerais revenir sur le côté du Niger en disant que c'est une bien mauvaise idée pour la CEDEAO. Je sais pas comment ils se sont retrouvés et dans quel état d'esprit. Qui a pris d'abord la parole pour dire qu'il faut aller intervenir au Niger? Je pense très bien que ce sont des gens qui sont doués des cinq sens. Donc aller tirer sur le sol d'un pays frère pour juste plaire à une puissance extérieure, c'est une bien mauvaise idée. Et quand je disais que chaque crise ou bien chaque situation porte en elle les germes de nouveaux paradigmes, c'est que chaque État dans lequel se trouvent ces crises-là doit commencer par réfléchir à pouvoir s'autonomiser lui-même. Pourquoi le Niger ne peut pas en même temps, à partir de maintenant, commencer par produire lui-même de l'électricité? Le Niger, c'est un pays de l'Interland qui a du soleil à gogo. Pourquoi ne pas installer...
Même l'uranium.
Oui, parce qu'il faut quand même l'extraire d'une certaine manière, le transformer pour pouvoir avoir... Mais le soleil est là. Pourquoi ne pas installer tellement de panneaux solaires dans le désert d'une certaine manière pour pouvoir avoir de l'électricité et ne plus dépendre du Nigeria qui a coupé le robinet de l'électricité? Donc il faut quand même que nos États africains puissent commencer, comme il y a déjà ces jeunes-là qui commencent par émerger, qui disent non à la France, non au joug extérieur. Commençons par poser ces pas-là pour que l'extérieur puisse nous respecter. Sinon, franchement, nos dirigeants sont en train d'hypothéquer les territoires africains à ces puissances extérieures.
D'accord. Puisque vous avez la parole, votre carton pour terminer.
Oui, mon carton sera un carton, je veux dire, violet, un carton de condoléances à quelqu'un qui m'est cher. Je parle, à titre personnel, je parle du feu préfet Kossi Diéfa Atabou qui nous a quittés. C'est très regrettable parce que le doyen Abbas sait de quoi il s'agit. On s'est vu tout récemment et on devrait se voir le mardi. Je suis allé, on m'a dit qu'il est allé à l'hôpital et voilà, le vendredi, vers le samedi, il est parti. Rien ne vaut la vie, mais la vie ne vaut rien. Célébrons la vie tant qu'on est en vie et célébrons ceux qui sont autour de nous. Alors, Fousséni, vous êtes un grand quelqu'un. Ce n'est pas après que je le dirai en mettant RIP sur votre photo. Respectons-nous et puis célébrons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Paix à l'âme de notre préfet Kossi Diéfa Atabou.
Paix à son âme. Sylvestre, bon, Abbas, votre carton.
Bon, moi, mon carton, il est vert. Je le balance à l'endroit de la police nationale pour sa prompte réaction par rapport à un fait qui circulait sur les réseaux sociaux où on dit que la route qui part de Bossimé au château, à la Tchoukoumé, devient dangereuse à une certaine heure, 22 heures. Il ne faut pas oser passer par là et la police a
déployer
les éléments, réagir promptement pour dire que les gens n'ont qu'à se rassurer.
D'accord.
Il n'y aura pas d'insécurité là. Mmh.
D'accord. Carton vert.
Carton vert à la police.
Okay. Sylvestre ?
Non, moi j'ai un carton d'or. J'ai un carton d'or à un frère, à un ami. Et puisque il y a Marc qui disait tout à l'heure qu'il faut célébrer la vie dans
Donatien.
Ah, voilà, il y a Marc avec soi et Donatien qui disait tout à l'heure qu'il faut célébrer la vie tant qu'on est, on est encore en vie. Donc, j'ai un ami, un grand frère qui s'appelle Romain Afan, qui célèbre aujourd'hui son jubilé d'or. Donc, en vos noms, donc au nom donc, de sa famille et de ses amis, de ses proches. Et donc, au nom donc, d'un groupe dénommé Chrétien, en Nation Chrétienne en Mission. Donc, nous lui souhaitons un joyeux anniversaire. Et fructueux donc, temps et donc, cher ami, et va de l'avant.
Voilà. Joyeux anniversaire.
D'accord. Merci à vous. C'est donc la fin de cette émission. Abbas Issaka du journal Magnan Libéré, Le Magnan Libéré. Sylvestre Kokou Béni du journal La Manchette. Donatien Wesso, journaliste, enfin analyste politique. Et puis Abel Ozi de Santé Éducation. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. À la technique, il y avait Michel Tomega, mise en ligne Jérôme Akoutia. Je suis Fousseni Saïbou. Je vous donne rendez-vous demain à 11h.